le studio Kalangou, il vient d'être 17h, le journal en français dans un instant avec Rafika Taher. À la une, aujourd'hui 24 décembre 2021, ouverture de la 42e édition de la lutte traditionnelle à Niamey avec la course au sabre national. Le chef de la délégation d'Agadez s'exprime dans ce journal. Pour la célébration demain 25 décembre de la Noël, date anniversaire de la naissance du Christ, les églises à Niamey se préparent pour la fête. À Baléyara, dans la région de Tillabéri, un producteur explique les avantages de la culture du mil hors saison de pluie. C'est dans la partie magazine de ce soir. La 42e édition du sabre national s'ouvre aujourd'hui à l'arène des jeux traditionnels de Niamey. Certaines délégations régionales sont déjà sur place. Celle de la région d'Agadez, conduite par El Hadji Adamou Harouna Hassan, est arrivée hier. Selon lui, les lutteurs sont prêts et n'attendent que les compétitions qui vont débuter demain. Il est au micro d'Ousmane Mamoudou.
Nous avons sélectionné 16 lutteurs qui vont représenter la région d'Agadez. Parmi eux, il y a des anciens tout comme des nouveaux. Nous avons quitté tous ensemble et on est arrivé en bonne santé à Niamey. Nous implorons Dieu qu'il nous donne le sabre et si ce n'est pas le cas, tout celui qui gagne, c'est toujours le Niger. Notre souhait est que cette 42e édition de lutte traditionnelle se déroule dans des meilleures conditions, car c'est une rencontre de cohésion sociale, comme l'a dit le président de la République. Ils nous ont bien accueillis. On mange bien et la sécurité est assuré. Il y a deux véhicules de force de défense et de sécurité qui sont sur place, ce qui n'était pas le cas avant. Notre appel, nous souhaitons que tout se passe dans de bonnes conditions, sans aucun problème, comme l'a dit le ministre. Dès qu'on constate un manquement, de le signaler afin de trouver une solution à l'amiable.
À l'instar des autres chrétiens du monde, la communauté chrétienne du Niger se prépare pour la célébration demain 25 décembre de la fête de Noël commémorant la naissance de Jésus-Christ. Dans quelques églises sillonnées ce matin par notre reporter, les derniers préparatifs sont en train d'être finalisés pour accueillir les fidèles pour la messe de minuit. Écoutons respectivement Père Mauro Almanino de l'église de la mission catholique du quartier Zongo et révérend pasteur Sanino Mao de l'église évangélique de la République du Niger de Bukoki.
D'abord, dans nos maisons, nous avons la tradition que nous avons héritée de l'église. Ce sont ces petites statues qui nous rappellent la manière dont Jésus est arrivé. On met aussi parfois des étoiles qui nous rappellent qu'il y a eu une étoile qui a signalé l'arrivée de Jésus, de ce Messie qui est lumière pour nous, de tous les peuples. Et on essaie d'enjoliver la maison. Et surtout, le premier symbole important, c'est le symbole de la lumière.
Nous sommes en train de faire la décoration de l'église pour que nous ayons une belle vue de l'église. Le message que nous sommes en train de préparer, c'est le message de l'amour. Parce que le but principal de l'arrivée de Jésus-Christ dans ce monde, c'est pour manifester l'amour de Dieu entre nous, frères, mais aussi cet amour envers ceux du dehors, ceux qui ne sont pas encore chrétiens et chrétiennes.
Dans le cadre des préparatifs du pèlerinage à la Mecque, le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umra a organisé hier à Maradi une rencontre avec leurs partenaires. Même si le royaume d'Arabie Saoudite n'a pas encore confirmé officiellement la tenue du prochain Hajj, le Coho tient à être prêt, exprime Gibrima Ali Boukar, le chargé de communication au micro de Mohamed Mamal.
C'est une mission de prise de contact et d'échange. C'est pour recueillir des avis et recommandations de nos premiers partenaires qui sont les chefs d'agence, les encadreurs et les prédicateurs. Pour le moment, on n'a reçu aucun acte officiel concernant l'édition du Hajj prochain. Mais nous espérons cette année que le Hajj ait lieu. C'est vraiment notre souhait. Et au niveau du Coho, on se prépare d'arrache-pied pour que nous ne soyons pas surpris. Nous nous préparons tous les jours dans l'organisation du Hajj. Bien évidemment, si le Hajj aura lieu, la première condition serait les mesures sanitaires, notamment le test PCR, la vaccination avec les vaccins homologués AstraZeneca et Johnson & Johnson, qui seront vraiment les premiers documents de voyage pour tout candidat au Hajj.
La loi déterminant les infractions et les sanctions en matière de production des consommateurs au Niger, adoptée en 2019, annonce les principes fondamentaux de la protection des consommateurs. Néanmoins, selon le président de l'Association des défenseurs des droits des consommateurs, ADDC Wadata, la seule contrainte serait les textes complémentaires. Maman Nouri explique au micro du studio Kalangou.
L'intérêt de cette loi, c'est d'abord sur la question de la qualité, sur la question de la disponibilité et sur la question des prix. Mais au-delà de tous ces paramètres, il y a d'autres choses connexes. En fait, c'est un cadre fédérateur des actions des différents services qui existent déjà et ça permet de faire une sorte de coordination en lien avec la protection des consommateurs. Les dispositifs institutionnels réglementaires sont déjà opérationnels. Maintenant, ce qui n'est pas opérationnel, c'est ce qui est contenu dans la loi qui n'est pas disponible sur l'architecture de la réglementation nationale et institutionnelle. Son importance, par exemple, les questions des plaintes des consommateurs. Il y a certes des autorités de régulation, mais ce n'est pas pour autant que le consommateur est réellement protégé parce que les dispositifs qui ont été mis en place au niveau de ces autorités de régulation, c'est des dispositifs de recours non juridictionnels. Alors, le changement, c'est qu'il n'y aura pas de recours sans réponse. Désormais, on va peut-être connaître un engouement sur des recours juridictionnels et éventuellement sur des solutions globales.
Depuis leur arrivée le week-end dernier dans le village de Gatawani, commune rurale de Tunuga, département de Gaya, les 500 personnes ayant fui l'insécurité dans les zones frontalières du Bénin et du Burkina vivent dans des conditions difficiles selon les autorités locales. Nazirou Malam Seydou, un conseiller de Gatawani, lance un cri de cœur au micro de Fadel Alou.
Ils disent que leur bagage, leur nourriture, leur champ qui est vraiment au stade de récolte, tous les ont laissés là-bas. Tout, ils sont venus. Il y a ceux qui n'ont même pas pu amener certains de leurs habits. Ils sont venus ici à Gatawani en vrac. On a eu quand même, tant bien que mal, logé certains dans une chambre, 10 à 15 personnes. Et aussi, difficilement, ils sont nourris. On les collecte parfois des plats et on les donne. Donc les enfants aussi sont là avec les enfants du village, les accueillent comme on peut, donc avec les moyens que la population a. Nous lançons un appel à l'État et aux partenaires vraiment à venir en aide urgemment, en aide à ces déplacés-là, qui sont au nombre de près de 500, qui sont rentrés là où la situation alimentaire est devenue déficitaire.
30 écoles primaires du canton de Tessawa, région de Maradi, ont bénéficié cette semaine de 1000 tables bancs, un don du chef de canton pour améliorer les conditions d'études des élèves. Mansour Kane Maïgizo, chef de canton de Tessawa, au micro de Seydou Kanté.
Ces 1000 tables que nous allons distribuer vont permettre à 3000 enfants de ne plus s'asseoir à même le sol, les protéger de certaines maladies et des effets de la fraîcheur. Ça leur permettra également de pouvoir bien écrire. Et puis, l'UNFPA a promis de nous appuyer une fois que nous arrivons à confectionner ces tables bancs pour qu'il n'y ait plus des élèves assis à même le sol dans toutes les écoles du département de Tessawa. Dès la fin de cette rencontre, la distribution de ces tables bancs va commencer. Nous avons déjà invité les chefs de village à les faire acheminer dans les 30 écoles. Et par la suite, nous allons voir les cas des autres.
C'était les propos recueillis par Seydou Sanké. Dans la région de Difa, la campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 s'est déroulée du lundi au dimanche la semaine dernière. Toutefois, la vaccination continue au niveau des différents sites pour atteindre l'objectif visé, explique Abdraman Idrissa, le directeur régional de la santé publique de Difa, au micro de Moussa Mani.
Ceux qui ont reçu les premières doses sont à 19%. Ceux qui ont reçu leur deuxième dose aussi au sein de notre population, c'est à 14%. Et quand on prend ça de manière globale, c'est pratiquement l'une des régions qui a les taux les plus élevés avec Maradi. Nous avons des données en instance parce que nous avons des équipes mobiles qui sont rentrées et le traitement des données est en cours. Donc nous allons intégrer ces données. Par rapport à la cible, nous avons environ 62 000 personnes à atteindre et nous avons atteint à peu près 82 de cette cible, alors qu'au niveau national, on demandait au moins une atteinte d'environ 95% des cibles. On sensibilise toujours les populations avec l'appui des différentes autorités administratives et coutumières qui nous appuient dans ce sens-là.
et de la région d'Agadez pour cette quatrième campagne de vaccination contre la COVID-19 qui s'est déroulée du 13 au 19 décembre. Environ 19 000 personnes ont été vaccinées sur 300 000 attendues. C'est ce qui ressort de la synthèse dressée par le directeur régional de la santé publique d'Agadez, Dr Irobawa, qui rappelle aussi que la vaccination continue même à la fin de la campagne. Sur certains marchés et un peu plus partout dans la ville de Niamey, on constate une forte quantité de pastèques disponibles sur les étals. Certains de ces fruits proviennent des pays voisins, nous expliquent ces revendeurs grossistes au micro de Salamatou Kadri.
La pastèque du Niger et celle du Nigeria, c'est pas tout le monde qui peut la différencier. Mais celle du Ghana et du Burkina, on peut les différencier, car leur prix n'est pas le même. Celles du Ghana et du Burkina ont plus de valeur. Si on les transporte ici, beaucoup d'entre elles pourrissent. Donc, il est obligé d'élever un peu le prix pour s'en sortir. Celle d'Agadez a plus de valeur. Elle est plus chère, elle est plus mûre et meilleure. Celle du Niger et celle du Nigeria, si elle est grosse, on peut la vendre en gros à 1250 francs, 1000 francs. Et celle du Ghana, si elle est rare, on peut la vendre plus cher.
La pastèque locale, c'est nous-mêmes qui la cultivons. Et l'autre, nous l'achetons. On la classe en quatre catégories. Il y a des grandes pastèques, des moyennes, des petites et des plus petites. Mais celle qui est importée du Burkina Faso et du Ghana attire plus la clientèle. Car c'est seulement quand elle est mûre qu'on la met sur le marché. Tandis que la nôtre est vendue avant même qu'elle ne mûrisse. Et en cas de blocage sur la route, ça se gâte.
La production du mil hors saison est bien possible au Niger selon un producteur natif du village de Dalouaï, région de Tillabéri. Ce dernier expérimente depuis 2012 la culture du Satki et Sounou, deux variétés de semences dans le département de Baléyara. Il estime que cette initiative pourrait permettre aux agriculteurs de s'adapter aux effets du changement climatique. Oudou Maïga, producteur de mil, explique au micro de Hassan Moumouni de la partie magazine.
Les producteurs d'autrefois se disent que la production du mil ne se fait que pendant la saison des pluies. Parfois, cette saison arrive tardivement. Les semis utilisés autrefois font 100 à 120 jours. Les temps ont changé. La durée de la saison des pluies n'atteint pas celle connue autrefois. C'est ce qui nous a conduit à faire une analyse profonde en se disant quelle méthode faudrait-il prendre qui va nous permettre de lutter contre les changements climatiques. Nous avons choisi des semences qui peuvent s'adapter à toutes les circonstances. Nous avons d'abord expérimenté une semence que nous appelons Setki. Nous l'avons semée pendant la saison des pluies, ça a réussi. Toute sa durée n'a pas dépassé 60 à 70 jours. Nous l'avons semée après la saison des pluies et en culture de contre-saison, ça a réussi et nous l'avons retenue. Nous avons ensuite procédé à une nouvelle expérience avec la qualité Sounou. Moi, je l'ai semée le 2 octobre et le 22 de ce mois, j'ai fait la récolte. Exactement 80 jours. Nous faisons cela pour montrer aux producteurs de notre pays une forme de lutte contre les effets du changement climatique. Pour qu'ils sachent que l'on peut produire du mil à tout temps, il faut que nous abandonnons l'idée conservatrice sur le long mil. Le mil court produit plus de graines d'ailleurs. Je vais encore le semer. D'ici le mois d'avril, je ferai la récolte. Après une pause, je vais le semer encore dans la période de la saison des pluies. Dans l'année, je fais 3 récoltes.
Quel est le rendement de ce genre de mil?
Setki que nous avons semé au cours de la saison des pluies, nous avons récolté 2 tonnes et demi. Pour celui de la culture de saison, sur un hectare, l'on peut avoir 3 à 4 tonnes. La raison de cette productivité élevée se résume par l'arrosage qu'il bénéficie au moment opportun à sa convenance. Deuxièmement, la production pendant la saison sèche, le mil ne se stagne pas. Troisièmement, pendant cette période, il n'y a pas trop d'insectes parasites. Tout cela contribue au développement du semis.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant la culture du mil en dehors de la saison des pluies?
La difficulté aux producteurs, ce sont les sauterelles pendant les paisons. Comment faut-il faire face? Dès que l'on constate un seul épi de mil qui commence à perdre ses graines, à partir de là qu'il faut sauver la production. Mais un épi, deux épis sont touchés. Alors là, même si toute la famille porte assistance sur le champ, eh bien, il n'y a plus d'espoir. Je lance un appel aux producteurs d'opter pour les semences adaptées afin de lutter contre les changements climatiques.
Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre, le journal en tamashek avec Habiba Ahmed.